Bonsoir, Michael Borsche-Jacobsen.
Bonsoir.
Ma première question, elle va être très très large. Que vient chercher Freud auprès de Charcot à la Salpêtrière?
Je crois qu'au départ, il ne le sait pas lui-même. Ce qui se passe, c'est qu'il vient à Paris en 1885. Il est étudiant en neurologie, en neuropathologie. Donc, il va voir Charcot pour parfaire son éducation. Il a déjà son habilitation. Et là, il tombe sur quelque chose qu'il n'attendait sans doute pas du tout. Il découvre l'hystérie façon Charcot. Je dis façon Charcot parce que c'est une hystérie très particulière, très spectaculaire, qui est provoquée, entre autres, par l'usage de l'hypnose. Et donc, c'est là que Freud découvre pour la première fois cette chose qui s'appelle hystérie, qu'il connaissait évidemment avant, mais là, il voit quelque chose de très spectaculaire. Et surtout, c'est l'époque où Charcot s'intéresse à ce qu'il appelle l'hystérie traumatique, c'est-à-dire l'hystérie, les symptômes hystériques provoqués par un choc, un accident, une chute, etc. Et Charcot, à ce moment-là, développe une théorie qui est que les personnes qui sont prédisposées à l'hystérie, parce qu'il pense que l'hystérie est héréditaire, est un trait neuropathologique, chez ces personnes prédisposées à l'hystérie, une chute, un accident, un choc traumatique peut provoquer un état proche de l'hypnose durant laquelle se forme une partie dissociée du psychisme dans laquelle se dépose une représentation, une idée qu'il appelle l'idée fixe. Par exemple, si on a une sensation d'engourdissement durant le choc dans le bras, eh bien cette sensation va rester fixée dans l'inconscient, comme l'appelle Charcot, et va provoquer des paralysies, par exemple, ou des anesthésies hystériques. Alors c'est ça que découvre Freud. C'est quand il arrive à Paris, c'est juste le moment où Charcot fait des démonstrations là-dessus. Et Freud est extraordinairement intéressé par ça. Ça bouscule complètement toutes ses idées sur la neuropathologie. Et donc, il va revenir à Vienne avec ça. Et c'est véritablement le début de ce qui deviendra, 10 ans plus tard, la psychanalyse. Parce que tout ce que Freud fait dans le domaine de l'hystérie et des névroses à partir de là, c'est tout simplement creuser l'idée du traumatisme qui provoque une dissociation qui elle-même provoque une relégation d'idées et de représentations dans une partie inconsciente du psychisme. Donc voilà, c'est ça qu'il trouve à Paris.
À quoi sert la pratique de l'hypnose? Charcot l'utilise dans un objectif bien restreint qui est de faire oublier l'événement traumatique.
Non, Charcot n'utilise pas l'hypnose comme ça. Pour lui, l'hypnose est une sorte de procédure expérimentale qu'il utilise pour démonter, si j'ose dire, l'hystérie. L'hystérique, pour lui, est quelqu'un qui est hypnotisable. Et inversement, seuls les hystériques sont hypnotisables pour Charcot. Et donc, dans ses leçons cliniques qu'il fait devant un auditoire très, très, très large, il utilise l'hypnose tout simplement pour démonter ce qu'il appelle la machinerie psychique de l'hystérie. Il n'a pas vraiment d'intention thérapeutique. C'est plutôt une hypnose expérimentale qu'il utilise. C'est Freud qui, avec d'autres gens à l'époque, comme Joseph Delboeuf et Pierre Janet, qui a l'idée d'utiliser l'hypnose à des fins thérapeutiques. Et ce qui l'amène à cette idée, c'est justement la théorie charcotienne de l'hystérie traumatique. C'est-à-dire que Freud parle de l'idée qu'il y a une idée qui est dissociée du psychisme, une idée qui est en fait un dépôt d'un traumatisme physique, et donc par à l'aide de l'hypnose, on va pouvoir remettre le patient, le sujet, dans l'état dissocié, et à ce moment-là, on pourra, grâce à l'hypnose, grâce à une suggestion faite sous hypnose, on pourra éliminer l'idée ou la représentation traumatique, de telle façon que les symptômes disparaîtront. Donc c'est ça que pratique Freud très exactement à partir de la fin 1887. Il utilise l'hypnose pour faire oublier au patient un traumatisme.
Ça.
Donc le traumatisme qu'il suppose être à l'origine des symptômes hystériques.
Ça, c'est ce que vous avez découvert par vos recherches, Michael Borges-Jacobsen.
Un peu, oui, parce que d'habitude, la façon dont on décrit l'origine ou la naissance de la psychanalyse, on dit que Freud a d'abord utilisé l'hypnose à la façon de Bernheim, qui était le grand rival de Charcot. Il consistait à suggérer directement la disparition d'un symptôme. Et on dit qu'après ça, Freud a commencé à utiliser la méthode dite cathartique qu'il avait apprise de son ami et mentor Breuer, qui consistait non pas à suggérer directement la disparition du symptôme, mais à aller chercher le souvenir d'un traumatisme et le faire revenir à la surface, le rendre conscient. D'abord l'abréagir, comme on disait, et le rendre conscient. Or, c'est pas du tout comme ça que Freud a procédé au départ. Dès le départ, même avant qu'il utilise l'hypnose à la façon de Bernheim, il l'a utilisé pour justement désuggérer, comme il disait, une idée traumatique. C'est-à-dire, en fait, la faire disparaître. C'était une forme de lavage de cerveau sous hypnose. Et donc, c'est cette méthode-là qu'il a utilisée jusqu'à l'automne 1892, à un moment où, pour des raisons dont je peux parler si vous voulez, il se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas, qu'il n'arrive pas à éliminer les symptômes hystériques en faisant oublier les idées traumatiques. Et il s'oriente à ce moment-là vers une procédure thérapeutique qui consiste au contraire à ramener les souvenirs à la conscience, ce qui n'est pas du tout ce qu'il faisait au départ. Donc en fait, ça, si vous voulez, cette nouvelle chronologie que j'ai découverte en fait sur la base des textes que j'ai publiés dans ce livre, cette nouvelle chronologie renouvelle complètement la façon dont on pense le début de la psychanalyse. Parce que c'est pas du tout, ça ne correspond absolument pas à la façon dont Freud lui-même a décrit l'origine de sa méthode.
Et vous l'avez découvert parce que ce texte n'était pas publié pendant 35 ans, c'est ça ?
Non, même pas. Non. En fait, c'était là. C'est là. Il suffit de mettre ensemble tous les textes qu'il a écrits sur l'hypnose à l'époque, en conférant tout ça avec les correspondances, avec son ami Fliess, etc. Et là, on peut voir très très concrètement comment, ce dont il parle à cette époque-là, quand je dis à cette époque-là, c'est fin 87, c'est d'une méthode thérapeutique qui, encore une fois, consiste non pas à ramener les souvenirs traumatiques à la conscience, mais au contraire à les faire oublier sous hypnose.
Cette rupture de l'automne 1892 est fondateur de la psychanalyse ?
C'est ça. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que sa méthode ne fonctionne pas, elle n'est pas efficace. Il faut dire que pendant toutes ces années, il traite des patientes comme Anna von Lieben, Elise Gompers et d'autres. Il les traite pendant des années avec cette méthode et il n'arrive pas à les guérir. Et donc il se demande au bout d'un moment forcément pourquoi, comment ça se fait que ça ne marche pas. Et c'est là qu'il a tombe sur cette idée que si les hystériques ne guérissent pas, c'est tout simplement parce qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas guérir. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas guérir, même lorsqu'on les ramène grâce à l'hypnose dans cet état dissocié où on a accès aux souvenirs traumatiques? C'est tout simplement parce que si ces souvenirs, même quand on les supprime sous hypnose, même si ça ne marche pas, c'est tout simplement parce que ces représentations, en fait, non seulement sont oubliées, mais sont refoulées et réprimées. Il n'utilise pas le mot refoulé tout de suite, il utilise le mot réprimé. Et pourquoi réprimer? Tout simplement parce que ce sont des représentations, des idées, des souvenirs dont on ne veut pas savoir. C'est évidemment le début de la psychanalyse, l'idée que l'inconscient est formé de représentations refoulées. On refoule des représentations dont on ne veut rien savoir dans quelque chose qui s'appelle l'inconscient. Et donc, à ce moment-là, il ne peut plus s'agir de faire oublier une représentation, puisque précisément, dans cette hypothèse-là, c'est l'oubli qui est voulu et qui est pathogène. Donc, au contraire, il faut ramener la représentation oubliée à la conscience. Et donc, c'est là où, progressivement, Freud décide d'abandonner l'hypnose, puisque l'hypnose, c'est ce qu'il pense à l'époque, comme tout le monde d'ailleurs, l'hypnose est suivie d'une amnésie post-hypnotique. Or, s'il s'agit de ramener des représentations à la conscience, évidemment, l'hypnose n'est pas la meilleure méthode. Donc c'est pour ça que progressivement, très progressivement, il pratique plutôt une hypnose légère, et puis en fin de compte, il abandonne complètement l'hypnose au profit de ce qui s'appelle la méthode des associations libres. Donc c'est ça, l'évolution de Freud à partir de 1892.
Et le vieux Freud, c'est celui qui a essayé de faire oublier l'usage de l'hypnose par le jeune Freud?
Oui, enfin, il a toujours déclaré que sa psychanalyse proprement dite n'avait commencé que lorsqu'il avait abandonné complètement l'hypnose. Ce qui est d'une certaine façon juste, puisque comme je viens de le dire, c'est à ce moment-là qu'il devient véritablement le Freud psychanalyste. Mais en même temps, c'est une grande simplification. C'est une simplification un peu intéressée parce que tous les concepts qu'il utilise en psychanalyse viennent en fait de la pratique de l'hypnose. Par exemple, le concept de résistance, au début, quand il l'utilise dans les textes sur l'hypnose, c'est pour parler de la résistance du patient à l'hypnose elle-même. Et c'est donc il y a une sorte de dérive sémantique qui fait que progressivement, il parle de la résistance à propos d'une idée dont on ne peut rien savoir. Même chose pour la symbolisation, qui est un terme très important chez Freud au départ. Ben, ça vient de sa pratique de l'hypnose et notamment de ce que lui a appris sa patiente Anna von Lieben. On pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. Je veux dire, tous les grands concepts de la psychanalyse émergent à la faveur de son travail sur l'hypnose et des difficultés qu'il rencontre avec elle. Je dirais que tout l'édifice psychanalytique vient originellement, initialement, de cette théorie de Charcot qui est que l'hystérie est due à un trauma. Alors, Charcot parlait d'un trauma physique qui causait une dissociation psychique. Freud parlera d'un trauma sexuel, infantile, etc. Mais, si vous voulez, le cadre est fourni par la théorie du trauma. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qu'il explore à l'aide de l'hypnose. Et c'est à la faveur de l'usage de l'hypnose qu'il obtient chez ses patientes, je dis patientes parce que la plupart d'entre elles étaient des femmes, qu'il obtient des souvenirs traumatiques. Maintenant, est-ce que ces souvenirs traumatiques étaient réels ou pas? Il y a toutes les raisons de penser que c'était des souvenirs qui étaient plutôt suggérés par sa quête hypnotique.
Alors replongeons-nous dans ces années-là. Freud est de retour à Vienne, le jeune Freud revient à Vienne à son retour de Paris. Il est salpêtriérisé, dites-vous. Prenons l'exemple donc d'une patiente, Anna von Lieben. Qu'est-ce qui va se passer avec elle concrètement?
Anna von Lieben, c'est une fille de la très très haute bourgeoisie juive viennoise. On peut même dire de l'aristocratie bancaire viennoise, qui souffre depuis quasiment son adolescence de troubles hystériques divers. Et donc, c'est avec elle que Freud pratiquera pour la première fois sa méthode. Comme je disais, à la fin 1887. On le sait maintenant parce que il y a une dizaine d'années en allemand les lettres de Freud à sa belle-sœur Mina Bernays, et là il est très clair que c'est, on peut même donner la date, c'est en octobre ou en novembre 87 que pour la première fois il a en traitement cette Anna von Lieben, et que donc il commence à la traiter avec l'hypnose.
Et les séances se passent comment?
Les séances se passent. D'après ce qu'on arrive à reconstituer à partir de différents éléments, Freud allait au palais d'Anna von Lieben, parce qu'il vivait dans un palais sur la Ringstrasse. Il allait là-bas deux fois par jour. Parce qu'elle avait des crises, et donc dès qu'elle avait une crise, il fallait qu'il vienne et qu'il fasse une séance d'hypnose et qu'il fasse revivre tel ou tel traumatisme qui avait été à l'origine de la crise. Quand je dis deux fois par jour, en fait c'était une fois par jour et une fois par nuit, parce que comme elle était noctambule, enfin, elle restait debout la nuit, il fallait souvent qu'il vienne le soir. Donc chaque soir, il est passé chez Anna von Lieben. Et donc c'est comme ça que décrit Freud les choses dans les études sur l'hystérie, dans un passage où il parle de cette Anna von Lieben sous un pseudonyme d'ailleurs, c'est l'IM. La réalité, c'est que Anna von Lieben était morphinomane, et donc elle avait besoin de Freud pour lui faire des injections de morphine. C'est lui qui lui donnait la morphine. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle avait une crise qui faisait venir Freud, Dardard, évidemment. Il lui donnait de la morphine et ensuite il lui faisait de l'hypnose. Alors, lui, il prétend que c'était l'hypnose qui... l'hypnose cathartique qui calmait la patiente. En fait, on a toutes les raisons de penser que c'était la dose de morphine.
Une de vos découvertes aussi, Michael Borg-Jacobsen, c'est de nommer des patients qui n'étaient pas nommés jusque-là. Par exemple, vous avez découvert que Freud avait hypnotisé sa femme, Martha.
Oui. J'en suis assez fier d'ailleurs. oui, c'est dans un des textes publiés dans ce livre, l'hypnose. C'est un des derniers textes, un cas de guérison par hypnose, qui est publié justement en 1892. C'est un texte très intéressant où il décrit une patiente anonyme qui n'arrive pas à allaiter ses enfants. Elle n'a pas de montée de lait, elle dépérit, ça ne va pas du tout. Et donc, il est appelé, raconte-t-il dans cet article, il est appelé auprès de cette femme et il arrive à lui, à provoquer des montées de lait et à calmer la patiente en l'hypnotisant à plusieurs reprises, en utilisant une méthode qui, alors là, du coup, n'est pas du tout charcotienne, qui est beaucoup plus proche de celle qu'utilisait Hippolyte Bernheim. Enfin, peu importe. Le fait est que pendant très longtemps, on s'est demandé mais qui était cette patiente anonyme, parce qu'il dit qu'il la connaissait depuis l'enfance, qu'il connaissait sa famille, etc. Il donne toutes sortes de détails, mais personne n'avait jamais réussi à trouver qui c'était, entre autres parce que Freud lui invente un mari et dit, le mari était opposé à l'usage de l'hypnose. Bon, il suffisait en fait d'enlever le mari, qui est une pure fiction destinée à cacher l'identité de la patiente, et on voit tout de suite que c'est sa propre femme. Tous les éléments collent, enfin tous les détails qu'il donne, jusqu'aux dates de la naissance des différents enfants, sont les mêmes. Donc voilà, j'ai réussi à l'identifier. C'est très drôle, enfin. c'est le premier récit de cas jamais écrit par Freud, et la patiente, c'est sa propre femme.
Parce que ces textes sur l'hypnose de Freud, que vous venez de publier dans ce livre-là, ils n'étaient pas publiés en français jusque-là.
C'est ça. C'est pas tout à fait vrai. Ce qui s'est passé, c'est que il y a déjà quelques 35 ans, j'avais traduit ces textes avec deux amis. Et à l'époque, les textes de Freud n'étaient pas dans le domaine public. Et les ayants droit de Freud en France ne nous ont pas laissé publier ces traductions. Oui, effectivement, les textes n'ont pas pu être publiés. En tout cas, ils n'ont pas pu être publiés. N'ont pas pu être publiés ensemble sous forme de volume. Nous avons quand même réussi à les publier de façon plus ou moins pirate dans des revues accueillantes à l'époque. Mais les publications étaient dispersées, difficiles d'accès, etc. Donc le fait est que c'est seulement maintenant, grâce à ce nouveau livre, cette nouvelle publication, que tous ces textes sont disponibles en français. Par une sorte de coïncidence assez étonnante, notre livre, parce que ça a été fait par aussi avec les iconographe de la maison d'édition, notre livre est paru à peu près au même moment que le dernier volume des œuvres complètes de Freud aux presses universitaires de France, où ces textes sont traduits aussi. Donc voilà, 35 ans après, ils sont disponibles.
Parce qu'il y a encore des découvertes à faire aussi longtemps après la mort de Freud, c'est ça qui m'a étonné avec votre livre.
Ah ben bien sûr, je crois qu'il y en a encore plein à faire. Il y en a plein à faire parce que vous comprenez, Freud a tellement dissimulé de choses, d'abord pour de bonnes raisons, parce que le secret médical, il ne pouvait pas publier le nom des patients et des patientes, mais aussi pour de mauvaises raisons, parce qu'il a trituré ses récits de cas et donc il nous a caché des choses qu'il aurait préféré qu'on ne sache pas. Donc il y a eu tellement de dissimulation par Freud lui-même et ensuite par ses héritiers intellectuels et éditoriaux que oui, nous ne savons pas tout ce qui s'est passé à l'époque. Et chaque jour apporte une nouvelle révélation. Vous savez peut-être qu'il y a des documents qui sont déposés à la Bibliothèque du Congrès à Washington par les fameuses archives Freud, et qui ne sont toujours pas disponibles, auxquelles les chercheurs ne peuvent pas avoir accès. Et donc, tant que tous ces documents ne seront pas disponibles, on peut toujours se dire qu'il y aura quelque chose encore à savoir. Donc, je pense que les découvertes vont continuer.
Merci, Michael Borges-Jacobsen.